Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Daniel Louvard. Daniel, tu es biologiste, mais les auditeurs te connaissent parce qu'on a déjà parlé une fois de recherche sur le cancer.
Exact.
Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'autres choses puisque je fais une série de podcasts sur le thème de la vérité. Mais pas seulement en science. Hein. J'ai interrogé un rabbin, j'ai interrogé un juriste, j'ai interrogé un physicien et aujourd'hui, un biologiste. J'aimerais qu'on discute de comment comprends-tu le mot « vrai » en biologie.
En biologie, c'est important parce que les gens que tu viens de me citer ont une perception probablement différente de la mienne.
Et c'est pour ça que ça m'intéresse.
Ce qu'on peut appeler le vrai, la vérité, une démonstration, même s'il y a certainement des points communs, on est différent des physiciens et encore plus différent des mathématiciens.
Mais vous êtes quand même basé sur l'expérience.
On n'a pas le choix. On doit d'abord décrire, observer, imaginer ensuite et faire des expériences. Ça, c'est un point déterminant. L'expérience doit être faite avec les contrôles nécessaires qui ne sont pas toujours évidents à imaginer et se fait avec les instruments dont on dispose. On ne doit jamais s'écarter des lois de la physique et de la chimie et quelque part de la rigueur mathématique.
Pendant la crise du Covid, on a vu un nombre incalculable de médecins, biologistes, scientifiques qui disaient des choses un peu contradictoires. Dans l'urgence, les gens avaient besoin de vérité, même rapide. Et on a eu une situation un peu triste, puisqu'une bonne partie de la population maintenant ne croit plus en personne. Et la question qui se pose, c'est comment un biologiste peut dire « ça, c'est vrai ». Étant donné que les expériences qu'ils mènent doivent être reproductibles, et ce qu'on reproche souvent aux biologistes, tu m'excuseras, les expériences en biologie ne sont pas toujours reproductibles.
La question de la reproductibilité est justement un point central. On va considérer que les résultats de cette expérience tels qu'ils ont été publiés sont vrais, si à minima, ils peuvent être reproduits dans plusieurs laboratoires dans le monde, indépendamment de la latitude et de la longitude.
C'est la moindre des choses.
Mais la reproductibilité en biologie n'est pas facile. On a construit les appareillages, les moyens d'observation, mais on n'a pas construit les objets qu'on utilise. Le résultat va être dépendant d'une très bonne description du mode opératoire, une très bonne description de choses très détaillées, les produits qu'on a utilisés, la provenance de ces produits, quel fabricant, quel lot. Et ce sont des paramètres qui font partie de l'expérience, mais que quelque part, intrinsèquement, on ne contrôle pas et peuvent affecter la reproductibilité sur des points de détail. Je l'ai vécu dans mon laboratoire. On sait très bien que si un produit qui a été fabriqué par tel fabricant de produits chimiques avec un degré de pureté défini, si on achète ce même produit à un autre fabricant, ça pourra peut-être marcher de la même manière, mais c'est pas certain. Parce que des produits en quantité infinitésimale peuvent avoir un impact sur le résultat. Donc ça, c'est un point.
Quelle valeur donner à un résultat s'il est à ce point sensible aux prestataires, aux commerçant qui t'a fourni l'acide chlorhydrique.
J'ai souvent dit ça à mes étudiants. On a réussi à publier ce travail dans de très grands journaux, mais finalement, la communauté scientifique considérera cela comme acquis par rapport à vos résultats lorsque ça aura été reproduit dans d'autres laboratoires. Si ça a été reproduit, la variable que je discutais sur la qualité des produits, on dira, bon ben, ça ne dépend pas de l'origine de tel produit chimique qui est entré dans la composition de la réaction qu'on a étudiée.
Dans le monde des mathématiques, si on soumet un article, il est envoyé à un expert, l'expert lit l'article, essaye de le comprendre, essaye de valider chacun des maillons de la démonstration, il dit c'est correct ou c'est pas correct. C'est un peu simpliste, mais c'est en gros c'est ça. Maintenant, un article de biologie arrive chez un expert, lui, on ne peut pas refaire l'expérience, la plupart du temps. Donc il doit faire un peu confiance.
Il ne refait pas l'expérience, mais l'expert a déjà l'expérience du sujet. Il voit s'il y a une cohérence dans les différentes données et si les conclusions sont cohérentes avec la série de preuves expérimentales dont on dispose. En biologie, il y a peu de théories, mais on en a quand même quelques-unes. Il y a quelques dogmes, on a des données quantitatives, et certaines données quantitatives peuvent ne pas être acceptables ou cohérentes avec ce que l'on sait d'un processus physico-chimique. Et ça, certains experts sont capables de le voir. On peut le voir quand il y a eu une erreur grossière dans le modèle, dans l'interprétation des données, que je caricature un peu, que d'emblée, un physico-chimiste peut avoir une connaissance. Il dira, le deuxième principe de la thermodynamique est bafoué dans ces données quantitatives, donc il y a un problème.
Est-ce que tu connais beaucoup d'exemples d'articles qui se sont avérés faux, même s'il n'y avait pas de mauvaise intention de la part de leur auteur, qui ont fait l'expérience de bonne foi, qui ont ignoré de bonne foi tel ou tel paramètre caché, et qu'on s'est rendu compte bien plus tard que cet ingrédient influait de manière...
Je n'ai pas d'exemple précis, mais j'en ai vécu dans mon labo. On s'en aperçoit assez vite. On parlait d'un produit. Un programme de recherche dans un laboratoire de recherche en biologie, ce n'est pas le résultat d'une seule expérience. C'est le résultat d'une série d'expériences pour que ça soit reproductible. Vu les paramètres, la multitude de paramètres qu'on peut ignorer, pour que ça soit reproductible, on doit optimiser le protocole expérimental, y compris le choix des réactifs. Et donc ceci peut s'étaler, non pas sur des semaines, mais ça peut s'étaler sur des mois, voire des années. Et je prenais l'exemple d'un produit qu'on a acheté chez le fabricant X, le lot 238. 6 mois plus tard, on commande le même produit, c'est le lot 239, et puis ça ne marche pas de la même manière. Ça peut arriver, ça m'est arrivé.
Ça veut dire que l'auteur de l'article doit préciser exactement les conditions de préparation de son expérience et il doit dire « j'ai pris le lot 238 ».
Dans certains cas, on sait que certains paramètres, justement parce qu'on le sait dans le labo qui a fait ce travail pendant des mois, voire des années, qu'il est très important de disposer du matériel. C'est un ingrédient important de l'expérience. On fait de la culture cellulaire depuis près de 70 ans, depuis le début du XXe siècle. Ça a été affiné par des gens qui ont travaillé dur pour trouver comment une cellule qu'on a prise d'un organisme vivant, quelle que soit l'espèce, qu'on a mis en culture et qu'on trouve les conditions pour qu'elle se développe, elle se multiplie et que son programme d'expression des gènes soit le plus identique possible à ce qui se passe dans l'organisme. Le développement des conditions du milieu de culture a pris des années, ça a valu des prix Nobel à certains, et on sait qu'il faut amener ce qu'on appelle des facteurs de croissance, qu'on peut synthétiser, c'est compliqué, ça coûte cher, etc. Mais les facteurs de croissance, les cellules que l'on met en culture, en ont besoin d'une panoplie. Et la meilleure solution qui a été trouvée par nos collègues, qu'on applique encore, c'est qu'on prend du sérum de veau fœtal. Autrement dit, on récupère des abattoirs, les fabricants, ceux qui vont fournir ce sérum de veau fœtal en quantité, contient les facteurs de croissance. Et quand on veut faire de la culture cellulaire avec des cellules difficiles à cultiver, ce n'est pas le cas pour toutes les cellules,
on prend ça.
On y fait attention. On achète le lot entier que produit le fabricant. Et on conserve ça dans un réfrigérateur, dans un congélateur, parce qu'on est parfaitement conscient du fait qu'il y a des choses là-dedans qui sont essentielles, qu'on ne contrôle pas, et qu'un autre lot donnera des résultats, peut donner des résultats différents.
Est-ce que tu penses que les biologistes expliquent suffisamment ce genre de choses à la population générale ?
Sûrement pas. Les éditeurs de journaux ont une responsabilité. On la partage. On a accepté depuis une vingtaine d'années que le matériel et méthode, comme on l'appelle, soit réduit comme une peau de chagrin, où il n'y a plus tous ces détails. Et parfois même, tous les détails de l'expérience, la façon dont on l'a conduite, indépendamment du point de détail que j'évoquais, tout ça soit dans des annexes que seuls les aficionados qui vont vouloir reproduire les expériences iront voir. c'est devenu un vrai sujet, tout ça parce que les éditeurs veulent gagner de la place dans le nombre de lignes que l'on publie.
Donc en conclusion, la vérité chez les biologistes est un peu plus floue que celle chez les physiciens.
C'est pas qu'elle est plus floue, c'est qu'il faut avoir, et c'est pas le cas de tout le monde, l'humilité de reconnaître que cette vérité est transitoire.
J'aime bien le mot, vérité transitoire.
C'est-à-dire qu'elle peut être amenée à ce qu'on soit corrigé un certain nombre d'interprétations. Pour moi, le sens de la vérité et de l'intégrité du chercheur dans ce domaine, c'est qu'il s'en tient aux résultats expérimentaux qu'il a obtenus, quantitatifs ou purement qualitatifs. Il décrit correctement comment il a fait l'expérience. De ça, il ne modifie pas et n'embellit pas ses résultats, parce que dans une courbe, un modélisateur pourra interpréter avec des équations mathématiques les points qui ne sont pas exactement dans la courbe qu'on peut tracer selon le modèle. Eh ben, on garde ces points, on ne les enlève pas, on les laisse là où ils sont.
On raconte que les expériences de Mendel sur les petits pois étaient un petit peu faussées.
Ben, ils étaient faussés parce que, justement, il avait quelques petits pois qui avaient subi une évolution dans leur génome, dans des mécanismes qu'ils ne pouvaient pas connaître à l'époque. Et évidemment, pour avoir la génétique formelle, c'est très rigoureux. Mais en fait, beaucoup d'aspects de la biologie moderne, quand elle devient quantitative, si on applique certaines lois de la physique, il faut mieux faire référence à la physique statistique plutôt qu'à la mécanique newtonienne. Je t'ai donné le sens de la vérité dans le sens de l'humilité, de transmettre ce que l'on souhaite, ce que l'on a vu, ce que l'on comprend avec l'éducation scientifique qu'on a reçue, et donc pas de transgression dans les dogmes fondamentaux de la physique, de la chimie et de l'usage des mathématiques. Parce que je ne suis pas mathématicien, mais je sais me servir de l'outil. Par contre, on a connu des gens qui s'écartent de cette éthique et de cette rigueur pour des raisons personnelles, d'ambition, politique. Lysenko, en URSS, a eu un effet désastreux sur toute la biologie soviétique, même sur l'impact, le frein qu'il a apporté dans certaines situations au développement de la génétique.
Mais dans ce que tu dis, il faut voir, il y a tout un continuum entre le faussaire qui fait ça uniquement pour des raisons de promotion ou pour des raisons monétaires ou je ne sais quoi, et puis les gens qui le font de manière plus ou moins inconsciente.
Est-ce vraiment inconscient? Parce que il y a ceux qui embellissent le résultat.
Prenons l'exemple de Mendel. Mendel n'était certainement pas un faussaire. Disons qu'il avait intimement la conviction d'une vérité.
Louis Pasteur a quand même aussi, dans certains cas, dans ses expériences sur la génération spontanée, il lui est arrivé d'avoir des fioles contaminées. Parce qu'il y avait peut-être une faille dans le verre, etc. Bon, il a éliminé ses fioles dans les données.
Mais là, tu le caractériserais comme étant...
Pas un faussaire, hein? Non. On sait très bien que l'histoire de Fleming et de son agent de laboratoire, qui a peut-être fait une manipulation un peu cochonne, en fait, un peu sale, et qui a été amené à ce qu'il y ait une moisissure qui se pose. Quel coup de chance, mais quel génie. D'aucuns auraient mis la boîte de culture à la poubelle. Tu as évoqué dans le Covid qu'est-ce qui est arrivé à M. Raoult, un autre collègue, qui au demeurant a été quelqu'un qui a apporté beaucoup à la microbiologie. Qu'est-ce qui lui a pris d'un seul coup? Il a beau être un scientifique, un médecin, c'est un être humain.
On a parlé beaucoup d'hubris. Hein?
Voilà, comme hubris. Mes enfants et petits-enfants, on dirait, il a pété les plombs. Voilà, alors c'est l'hubris. Pour les biologistes, nous avons eu Benveniste avec la mémoire de l'eau. Benveniste, au demeurant, avait fait une carrière tout à fait honnête et de qualité en pharmacologie. Qu'est-ce qui lui a pris? Je ne dirais pas qu'il a triché, là, il y avait une irreproductibilité dans les résultats. Il s'est projeté dans quelque chose, dans un mythe. Et notre collègue et confrère Montagnier, à qui on doit quand même être prix Nobel, lui aussi a soutenu la théorie de Benveniste pour l'ADN et autre chose. Donc là, à nouveau, soyons humbles.
Bonne conclusion, soyons humbles. Daniel, tu connais ma dernière question ?
Non, je ne sais pas.
Si, c'est la même que je pose à tout le monde. Parle-moi de musique.
J'aime la musique classique.
J'aimerais que tu me donnes une musique qui t'évoque la vérité.
J'aime là où il y a de l'ordre, de la cohérence et de l'harmonie.
Alors, est-ce que tu vas dire, comme la plupart des mathématiciens auxquels je pose cette question, ils me répondent Bach ?
J'aime bien Bach, mais je me distrais plus sur quelque chose de plus simple, qui est Mozart.
Mozart, plus simple que Bach. Et moins mathématisé, on peut dire.
C'est ça que je veux dire, oui. Il a fait plus appel à la sensibilité. La sensibilité, c'est important, parce que c'est aussi quelque chose commun avec l'intuition.
Alors, Mozart, quoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses chez Mozart.
J'aime l'harmonie chez Mozart. Quelque chose qui me fait rêver, qui me chatouille. Que je peux écouter en lisant un article scientifique, ça ne va pas me gêner. J'aime écrire en musique, ça me calme, ça m'apaise. Quand on veut transmettre ce que tu appelles la vérité, le vrai, on a besoin d'être calme et apaisé.
Alors vous avez écouté des extraits de Laudate Dominum de Mozart. Très harmonieux.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.